La chèvre chamoisée du fel. Dans le troupeau caprin du fel, qui ne comptait pas moins de 180 têtes, presque toutes les chèvres étaient blanches et, pas plus d'une dizaine, chamoisées. Celles-ci avaient le poil couleur de feuilles mortes tombées du dernier automne où, avec un peu moins de poésie, leurs robes tirées vers le café crème un peu métissées avec plus ou moins de lait et des taches rousses plus ou moins marquées. Sur l'échine, une raie noire les coupe par moitié, pareille à celle qui, sur l'échine de certains ânes, forme une croix, un souvenir de celui qui porta Jésus lors de sa fuite en Égypte. Cette raie, leur couleur et aussi leur port font songer à leurs cousins, les chamois, qui peuplent à présent depuis quelques dizaines d'années les montagnes du Cantal, qui au nord se profile de neige largement coiffée. Notre chevrette avait une jolie barbichette, pareille à celle de Napoléon III, des yeux vifs, pétillants d'intelligence et de malice, deux marguerites suspendues sous le cou en guise de Saint-Esprit, la queue courte mais très vive, le pied pointu et fourchu, de cire noire tout enduit et, pour couronner le tout, une jolie paire de cornes bien striées et arquées. Toutes les autres chèvres étaient sans cornes, mais ce n'était pas de naissance. Elle avait, par miracle, échappé au massacre. Il faut bien, pour rompre la monotonie, de temps en temps une exception. Et comme elle était loin d'être méchante, et ne profitait pas de son avantage pour battre les autres, pas comme les 5 ou 6 chèvres cornues achetées, vite amputées et sur lesquelles les autres tout de suite s'étaient vengées, ses cornes à elle, on les lui avait laissées.
Le printemps était là, le second pour elle. La vie était monotone et trop réglée pour elle. Même si la vie matérielle était assurée, la liberté, par ma foi, lui manquait et même si elle ne la connaissait pas, elle en rêvait. Pas seulement le temps de connaître les cabris qu'elle venait de faire, et 2 fois par jour la traite mécanique électrique, même si elle était sortie d'une gourmandise. Pas de sortie, même le dimanche, rien à brouter et rien non plus à escalader. Pas comme ses cousines éloignées dont elle avait entendu parler par les vieilles qui radotaient, qui, autour de Merle, montaient faire la sieste à l'extrême pointe du vieux château. Pas non plus comme celle d'un certain Monsieur Seguin qui, elle, en avait assez d'être au piquet dans l'enclos, qui s'échappa pour aller dans la montagne et que le pauvre peu cher, le loup, la mangea. Il fallait bien, par ma foi, que les cornes servissent à quelque chose. Un jour, elle brisa un carreau pour s'aérer, voir un peu dehors. Le plastique remplaça le carreau, mais à la fin de la semaine, il fut largement troué et une fois la tête passée, comme pour la naissance, tout le reste du corps suivit et la chèvre se trouva libre.
Elle avait longtemps réfléchi à ce qu'elle ferait dans ce cas-là et elle n'hésita pas. Tout de suite, elle va vers la baraque d'où monte une odeur de bouc, la senteur puissante des 4 boucs prisonniers. Elle va droit au parc du barbu bourru qui lui plaît le plus et elle fait jouer le verrou. Et en route pour la montagne, de cachette en cachette, de nuit, de bosquet en rancier, sans jamais se tromper de cap. Le trajet dura 15 jours et l'arrivée là-haut, du côté du puits de la tour. La rencontre avec les chamois et la bataille inévitable et la victoire du bouc. La liberté à la longue trouvée. Moralité. Il ne faut pas trop vous étonner si dans vos promenades, il vous arrive de voir un jour des chamois avec des taches, des chèvres chamoisées charbonnées, sans s'être par coquetterie pour autant maquillées.